Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
De cette affaire-là, c'est ici au Québec. Là, c'est...
T'en as deux au Québec. T'en as un
à Charlevoix, là,
surtout,
tu dors.
C'est surtout l'autre qui est en Gatineau.
À Gatineau.
Ben, puis là, ils viennent d'ajouter, j'ai reçu un communiqué de presse là-dessus. Ils ont les loups, puis là, ça va être les ours.
Ah ouais?
Des eaux à la loue.
Ouais,
okay. Le monde aime ça, les gars.
Même s'ils rouvrent la porte, là, tu sais. Ouais. On va pisser dehors, ben, à nuit, moi, des
ben
fois.
Ça,
là.
C'est comme la première fois que tu fais sentir de la nature au lac Saint-Jean, Saint-Félicien, là. C'est toi qui es dans la cage, là.
Ah ouais, OK.
Sentir de la nature aux eaux de Saint-Félicien, ouais. C'est impressionnant. Fait que...
Mais tu sais, en même temps, quand on va, là, mettons, on s'en va à New York, j'ai pas réservé les chambres d'hôtel encore, il y a amplement de choix, puis c'est clair que moi, de coucher au New Jersey, c'est fini, là.
Non, non, tu couches
ça il y a 30 ans, là, mais ça se fait plus, là.
Tu regardes Moxie's Hotel, tu regardes, maintenant, il faut que tu ailles regarder dans les petits hôtels de catégorie qui vont être un peu plus, comment je pourrais dire, je suis pas chic, mais urbain.
Okay. Hôtel boutique,
hôtel urbain. Oui, mais l'hôtel boutique a été galvaudé, c'est tout maintenant. Ils ont tout un hôtel urbain.
OK.
OK, à l'offre.
Mais en même temps, je veux pas payer cher. Ben tu sais, parce que va arriver en chambre, je sais, on va être brûlé, on va marcher à la ville au complet. On va arriver, on va prendre une douche, on se couche. Ça va être terminé.
Mais c'est parce que pour nous, 400$ à New York, c'est pas cher.
Ouais, mais tu veux, gars, qui, oui, aurait trouvé 250. Moi, tout, là, j'étais autour, en argent canadien, là.
En canadien.
Je marche en canadien.
Mais écoute, ça dépend des périodes.
C'est ça.
Ça dépend, c'est du yield.
Des quartiers aussi.
C'est de la gestion par l'offre et la demande, hein.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment.
C'est pour ça que je les suis tous les jours, exactement. Là, puis j'ai pas réservé encore. Puis là, on a même modifié les dates parce que y allait un week-end. Oh, il y avait un écart de prix quand même de quasiment 75$ la nuit.
Tout à fait.
Fait que, puis le même hôtel, donc moins cher du lundi au jeudi. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de s'ajuster dans ça.
Dans le temps de l'avion, Karen, si tu passais un samedi, si tu prenais un vol qui incluait un samedi soir, le prix n'était pas pareil.
C'est encore le même.
C'est encore comme ça. Ben
oui,
ça.
Oui.
C'est quoi? C'est plus cher la fin de semaine?
Oui, si tu pars un vendredi, un samedi.
Non,
ou
mais si tu inclus le samedi, ton prix baisse parce qu'ils voulaient que tu sois parti au moins.
OK, mais il y a vraiment des journées dans une semaine. Okay. Et ça, tu la vois, la tendance. Par exemple, si tu magasines sur Google Flight, là, tu vas voir, par exemple, tu veux faire Québec-Honolulu, ben. Mettons, un lundi, c'est moins cher que de partir un vendredi ou un samedi.
OK.
Fait que ça, tu vois,
comme
ça, là, la tendance.
En fin de semaine, c'est la longue fin de semaine aux États-Unis. Nous autres, c'était la fin de semaine dernière.
OK.
La fin de semaine prochaine, tout jack.
Tout va être plus élevé. Toi, tu magasines où tes billets d'avion?
Je regarde Google Flight tout le temps pour me donner une idée. Je mets une alerte quand je suis vraiment d'avance. Après ça, je vais vraiment regarder un peu partout. Je vais aller même sur les sites des compagnies aériennes. Mais tu sais, pour moi, là, c'est un projet, OK? Je passe à peu près 40 heures pour booker juste des billets d'avion pour un voyage.
C'est un divertissement en même temps pour toi.
Oh mon Dieu, moi, c'est ma partie préférée. J'aime quasiment plus faire la réservation de tout ça que d'aller au voyage.
C'est comme moi,
même.
Faire l'épicerie au lieu de faire à manger. Moi, faire l'épicerie, c'est ma portion la plus tripante de recevoir.
Non, moi aussi, j'aime ça. Ouais, ça. J'adore ça.
Vois-tu, moi, je suis aéroplane. Moi, c'est Air Canada or Bust.
Okay.
Puis je veux ramasser mes points, mon statut, parce que je veux rentrer zone 2 dans l'avion. Parce que c'est, quand tu rentres zone 4, il n'y a plus de place, mets ton carry-on.
Ouais.
Y a des, quand tu voyages beaucoup, il y a des perks comme ça que tu veux avoir absolument. Fait que faut que tu te concentres sur une compagnie. Comme là, en Floride, c'est United. Parce que c'est par Newark. Mais Newark, l'été, il n'y a pas de problème. J'ai une couple d'autres affaires que je voudrais continuer avant que mon temps s'écoule.
Oui.
Je voulais parler du top 100. Parce que si j'étais venu la semaine passée, j'étais en...
OK.
Parce que, tu sais, oui, que Vin Mon Lapin soit le numéro 1 au Canada, je suis heureux.
Resto de Montréal.
Je suis heureux pour eux, mais c'est un bistrot à vin qui est cool, là, OK? C'est un restaurant cool. Mais que la tanière soit 90e, là, il y a des anomalies, OK? Puis, tu sais, on a parlé des Michelin l'autre fois, puis on a dit, il y a un macaron. On met pas de... C'est pas le un macaron plus qui gagne. Donc, ces listings-là, on voit qu'il n'y a pas de représentation du jury dans l'Est du Canada. Donc, il n'y aura jamais de restaurant de l'Est du Canada, Québec, même Montréal.
Il y en met un juste pour dire qu'ils l'ont pas ignoré complètement?
Il y en a, là. Harvey est encore là. La tanière est là. Il y en a, mais c'est juste que c'est mal fait.
Okay.
Puis le monde s'appuie là-dessus. Mm-hmm. Mais quand il y a la cabane d'à côté qui compétitionnent avec Toki puis Laurie Raphaël. Il y a des anomalies au niveau du service, de l'offre. C'est pour ça que...
Parce que ça, la cabane à côté, c'est quoi?
C'est l'autre cabane du pied de cochon.
OK, puis ça ressemble à une cabane à sucre.
Oui, c'est une cabane à sucre. Tu sais, ils te servent ça, des gros plats à la table, puis tu prends une cuillère, puis tu te verses ça dans ton assiette.
Ça peut pas être dans la même catégorie.
Ça peut pas être dans la même catégorie, tu sais. Puis vin mon lapin, c'est trippant. Tu sais, ils ont des vins nature bio. Moi, la dernière fois que je suis allé, on avait un magnum de vin bio nature. Puis le gars, t'allais en arrière le shaker pour enlever du gaz dedans. C'était bon, c'était pour les tripeux de vin nature, c'était
si on se le dire, ça goûte la marde du vin nature.
Moi, je suis pas capable. Moi je suis vieux.
Ça dépend
là, je leur dis tout le temps, pour être sûr qu'ils m'en offrent pas, je dis, moi, je suis vieux, je suis un traditionnel dans le vin.
Ah, moi, tous ces vins-là, les vins oranges, là, puis tant mieux si vous aimez ça, mais moi, là, c'est comme si tu venais de le piloter.
Fait que pour ces guides-là, je veux juste aviser les gens d'en prendre puis d'en laisser, OK? Puis fiez-vous pas au nombre, dites-vous s'il n'y avait pas de chiffres à côté, puis ça serait la liste des 100 restaurants visités au Canada, je serais heureux. Puis quand je vois les 12 plus beaux hôtels de Québec, je me dis, Colin, il y a encore manqué à côté. Puis c'est pour ça que les principes comme les diamants, tu sais, CA, les diamants, les Michelin, c'est juste selon la qualité de ton établissement, tu mérites 1, 2 ou 3, puis du service, comme les hôtels. Les hôtels, si c'est 5 étoiles, tu sais que c'est parce qu'il y a un séchoir, il y a une chaise ergonomique, puis avec un bureau de travail, puis ça va.
Il y a des coches,
au moins, ça te permet de savoir qu'il va y avoir des fleurs naturelles. La dernière chose que je voulais dire ce matin, c'est que je voulais féliciter Verace, qui est Steve spécialiste avec sa gang au QG, qui vient de gagner pour la deuxième année à Québec le Pizza Week.
OK.
De le gagner 2 fois, ça veut dire qu'il fait quelque chose de trippant. Puis moi, je le connais personnellement parce que je vais manger à son comptoir. Puis.
Il fait que de la pizza?
Il fait que de la pizza. Verace, donc véritable italienne. Les produits, les tomates. D'ailleurs, les tomates que vous voyez, que vous allez voir sur sa pizza, c'est des tomates spécifiques qui d'une certaine culture qui viennent d'Italie avec une saveur particulière parce que j'ai goûté en primeur. Parce que je me suis acheté un four à pizza, moi aussi. Puis ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts à nous vendre de la sauce. Mais. Il m'en a donné pour que j'amène à la maison.
La pâte, tu veux dire?
La pâte, le pâton, que ça s'appelle, okay. Le pâton. Puis, c'est pas parce que t'as de la pâte que t'es bon, hein?
Ah, c'est ça.
Non, écoute, juste, j'en rêve la nuit là, de tourner ma pâte. Puis de
l'étirer puis de pas faire de trous, là.
Puis de pas faire de trous, donc...
Sans l'agent, ça, quand tu fais un trou dedans, peu importe, tu recommences.
Exactement. Fait que peu importe les fours à pizza qu'on a, ça va prendre au moins 100 de pâtons avant de pouvoir avoir maîtrisé un petit peu. Mais je trouve ça cool. Puis, il y a tellement de passion derrière le produit. C'est produit.
T'sais, mais quand tu gagnes un concours comme ça, outre la notoriété, tu gagnes quoi?
Non, juste la notoriété.
Juste la notoriété.
Ben, peut-être que c'est organisé par un gros producteur de fromage, donc il y a peut-être certains perks qui viennent avec ça, mais juste d'être sur la peine de lait, ça c'est déjà très, 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 très populaire. Fait que je veux le féliciter, puis toutes les autres qui embarquent, parce que de créer des... Des weeks comme ça, ça crée une tendance.
Oui, et puis ça donne le goût d'essayer des choses. Et ça crée une variété. Ils sont pas tous wow, mais des fois, ça peut amener des découvertes puis des plats qui vont rester stables sur le menu, par exemple.
Comme la Gaspésienne 51 qui s'éclate quand c'est le Poutine Week.
C'est ça.
Mais c'est aussi encore là une question de vote.
Oui, c'est ça.
Le lobbying, quand tu vois des établissements qui disent... Please rate us, s'il vous plaît, nous évaluer sur TripAdvisor. Tu sais, là, on le voit un peu moins, mais quand tu voyages dans les pays d'Europe, là, ils te donnent une petite carte d'affaires parce que pour eux, c'est la façon de vendre leur établissement.
Oui, puis tu disais, tu sais, nous, les top 10 ou les top 100, on va les regarder quand on va voyager. Moi, je vais te parler régulièrement, mais on va aller aussi lire les commentaires. C'est bien beau qu'ils te sortent le top 10 d'un endroit, mais là, va lire les commentaires. Puis là, s'il y a 2 ou 3 commentaires qui vont dans la même direction, qui sont assez récents, soit un manque de service, ou un prix trop élevé, ben ça cache quelque chose là. Fait que des fois passe à l'autre, tu sais. Donc il y a moyen de s'y retrouver en ayant du jugement un peu pour savoir.
Le client averti. Ben c'est ça. Maintenant le client est beaucoup plus averti. T'sais, des fois je dis aux restaurateurs, vous savez que les clients qui arrivent chez vous ont déjà probablement regardé le menu sur internet.
Ah, c'est ça.
Fait que, c'est ça qu'on. La grande conclusion quand on est revenu de Chicago avec la gang de Cosmos, c'était de dire le métier a tellement changé en si peu de temps. Pendant des milliers d'années, restaurateur, c'était de servir de la soupe faite avec les tout-ski de la veille, puis de s'assurer que tout le monde est heureux. Maintenant, C'est un métier à part entière, puis c'est vraiment plus compliqué que c'était.
Good. Voilà, c'est fait le tour, Bob. Merci beaucoup. Tu peux rester avec nous parce que je fais pas de pause tout de suite. Je veux que Nicolas, parce que tu voulais me parler d'un voyage
oui.
que tu souhaites que je fasse, j'avais hâte. Je me suis dit, ça doit être encore une niaiserie. Mais là, absolument après la restauration, pas. Faut parler de voyage. Alors, tu as découvert quelque chose qui pourrait m'intéresser.
Oui, depuis la fin mars de cette année, je t'ai parlé des 60 ans de James Bond.
Oui.
Cette année, on fête les 60 ans de James Bond au cinéma. Et pour souligner justement les 60 ans, l'équipe de production de James Bond, Eon Productions, s'est associée à un groupe qui organise des tours et on offre l'expérience James Bond.
Okay.
Dans une série de voyages. T'as plusieurs niveaux que tu peux choisir. Mais celui que j'aimerais que tu fasses, c'est celui... Ben, j'aimerais ça que tu le fasses pour moi. Je vais le vivre par procuration quand tu vas le quand tu vas le faire. C'est un voyage de 12 jours. Et j'essaie juste de retrouver les destinations exactes.
C'est quoi qui est le plus fun avec James Bond? C'est que tu peux prendre des Vesper Martini parce qu'il n'y a pas de bulles dedans.
OK. Ça, j'avais le droit de boire ça, mais des martinis...
Le Vesper Shaken, not stirred.
OK.
Bien sûr. Bien sûr, c'est sûr. Le voyage de 12 jours, c'est... tu vas faire... Entre autres, écoute, ça commence à Londres. OK? On va te faire une poursuite en bateau sur la Tamise. Comme okay. dans les... Fait que c'est un mélange de tourisme et d'expérience James Bond. Soit on va recréer des expériences que tu as vues dans les films, soit on va te montrer l'envers du décor des films de James Bond. Puis tu sais que souvent dans les films de James Bond, c'est des décors très...
flamboyants.
Spectaculaires.
Mais là, c'est moi qui conduis le bateau ou c'est...
Des endroits mythiques aussi.
Oui,
là.
Oui. Je sais pas si tu vas conduire le bateau, Stéphane. Tu t'informeras quand...
Je pars ta carte de...
Oui, je l'ai acheté.
Tu vas aller, entre autres, à donc Londres, Paris, Monaco... vraiment des endroits mythiques en Europe de l'expérience de James Bond. Lac de Côme, Venise, tout ça en 12 jours.
Okay.
Et avec à chaque endroit des hôtels appropriés qui ont un lien avec
la franchise
de James Bond. Des restaurants, j'imagine, appropriés. Et quelques expériences. Je pense même qu'il y a des anciens acteurs et actrices qui sont impliqués dans la tournée de 12 jours.
Ça ne doit pas être cher. Hein?
Ça t'intéresse-tu?
Oui.
OK. 60 000.
60 000 piastres?
Par personne.
Par personne?
Oui.
Ah, les repas sont inclus?
Tu peux y aller
tout seul. Oui, j'espère que les repas sont inclus. L'avion n'est pas inclus, par exemple.
Faut que tu te rendes à Londres.
Oui.
Un coup rendu là, j'occupe de toi.
Oui, exact.
Mais il faut que tu payes pour y aller.
Mais je te disais, il y a différents niveaux d'expérience. Ça commence à un très raisonnable 18 000 $ par personne.
Oh.
Ça va être moins de jours. Ça sera pas l'expérience de 12 jours, mais on peut quand même te faire vivre le Londres de James Bond. Je vous le dis parce que si ça vous intéresse, c'est offert juste cette année, de mars à octobre.
OK, donc c'est sur une période très précise.
Exact.
OK.
Parce qu'on gardera pas les gens puis les employés actifs tout le temps. À moins peut-être que ça fonctionne
mais
beaucoup.
Mais mettons, il y en a-tu un avec, je sais pas, le film Les Boys, mettons, là, tu sais?
Pas encore!
On va vivre l'expérience, aller jouer au hockey avec Les Boys, ça pourrait être moins cher.
Il y a des bateaux de croisière maintenant qui t'offrent de vivre à l'année sur le bateau puis d'embarquer.
Oui, il y en avait un de 3 ans ouais, même.
C'est
que
exactement
j'ai vu
ça. Il me semble que la vie serait belle.
Ah, je sais pas.
3 ans dans une petite cabine
non, non,
de
ben,
bateau.
Non, dans toutes les villes. Ouais. Mais c'est des plus petits bateaux. Là. Ritz-Carlton, ils ont un bateau d'à peu près 200 passagers. Au lieu de débarquer dans le grand port, débarque...
J'ai un ami qui a fait ça, une croisière de très, très grand luxe, puis je pense que c'était 150 passagers. Ils avaient un steward par personne sur le bateau, mais c'est ça, c'est une affaire de 70 000 là, pour 3 semaines, mais c'était complètement fou là, comme voyage, mais, comme ils ont fait.
Tu sais, quand t'arrives en Floride, tu vois tous ces gros bateaux-là en location, tu te dis, qui loue ça? OK, mais un courtier à la bourse à New York qui gagne 1 million, qui a 2 semaines de vacances, lui, d'aller mettre 25 000 sur un bateau pour un week-end.
Ouais. C'est ça, ça le dérange moins.
Puis il y en a un sacré paquet qu'on connaît pas.
Il y a du monde qui ont de l'argent. Là. Je regardais, on annonçait que là, hier, on a réussi pour la comme la première fois. Voyons, comment il s'appelle? Branson?
Richard
Branson.
Virgin.
Ils ont atteint l'espace hier. Hein? Il y a un de ses véhicules. Qui aussi, lui, il fait longtemps qu'il avait lancé ce projet-là.
Avant toutes les autres.
Mais en 2014, il y a un de ses pilotes qui est décédé dans un accident. Donc, ça avait retardé beaucoup le projet. Hier, ils ont atteint l'espace avec leur véhicule. Et là, donc, ils sont sur le point de pouvoir livrer. Puis, il y a 800 personnes quand même qui ont acheté ce voyage-là pour aller faire un petit tour dans l'espace. Là. Un petit aller-retour quasiment de quelques heures. Là.
Le gars du Cirque du Soleil qui est quand même allé...
Oui, il est allé une semaine.
Non, mais c'est grandiose.
C'est ça.
Tu parles de Virgin. On parlait d'hôtel. Aller dans un Virgin Hotel, c'est trippant.
Ah oui?
Ben oui, parce qu'ils vivent...
Je connais pas ça.
Ben, c'est une chaîne qui fait partie de... Puis quand t'arrives là, musique, environnement, habituellement, il y a des roofs. À Chicago, le rooftop, il est spectaculaire.
Okay.
Puis c'est des bâtisses qui sont jamais... sont atypiques.
OK. Très différent.
Juste pour vérifier une couple de places où ils vont coucher, là, que tu connais peut-être. À Paris, on couche au Château de Chantilly.
Ça, c'est des hôtels particuliers, des hôtels privés.
OK. À Monaco, c'est l'hôtel Métropole Monte-Carlo.
Ça, c'est pas l'hôtel du casino où il y a du casse. C'est l'autre hôtel juste à côté. Écoute, ils vont tourner autour. Là.
Ils vont tourner autour.
En fin de semaine,
là.
Mm-hmm. La courbe du casino, là, à côté, c'est le Métropole.
Y a-tu
le Eden Rock là-dedans?
J'ai pas vu encore. Quand tu vas être au lac de Combes, tu vas... conduire ton Aston Martin. Fait que, tu sais, à chaque place, il y a vraiment des affaires comme ça. Tu vas avoir un tour d'hélicoptère privé. Je te parlais de la poursuite en bateau tantôt. Fait qu'il y a vraiment, pour un tripeux de James Bond ou quelqu'un qui veut voir l'Europe...
Je voudrais que je réécoute tous les films avant de partir.
Faudrait que tu réécoutes.
C'est pour dire, hey, j'ai vu ça.
Il y a des lieux mythiques, la Courchevel. Quand ils font le ski dans la montagne, puis c'est Courchevel ou... c'est des...
À Venise, c'est l'hôtel Cipriani.
Cipriani.
Bon. Fait que, tu sais, c'est pas des places.
Non, mais c'est des hôtels à 2 000 $ la nuit.
Bon.
Bien sûr, mais là, ça coûte 60 000 par personne.
J'ai mangé mon carpaccio le plus cher au Harry's Bar. C'est lui qui aurait inventé le 70 € pour un carpaccio.
OK. Ça, c'est en entrée.
Ouais, c'était.
Ça coupe l'appétit, hein?
Ça coupe même. Ça leur a même pas coûté l'électricité pour le faire cuire.
Merci les gars. Donc je pense à ça.
On part demain. Hein?
Je magasine.
Je pense à ça.
Je te rappelle, ok. merci Bob Dion, Nicolo, pour nous parler de restauration et de voyage. Nous on revient dans un instant.
Dupont le matin au FM 93.
Arc, c'est dégueu.
Dupont le matin. As-tu 2 minutes?
Nouvelle de dernière heure, Céline Dion qui annule une 40aine de concerts prévus en Europe et ce jusqu'en avril 2024. C'est encore ses problèmes de santé là, qui l'empêchent de remonter sur scène.
C'est une maladie, c'est quoi? C'est la rigidité?
C'est le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique.
OK.
Et dans la circulation, c'est très difficile à deux endroits. L'autoroute de la capitale, d'abord, là, en direction ouest, il y a un accident important qui est survenu à la hauteur de l'autoroute Laurentienne. Il y a une seule voie disponible en direction ouest à cette hauteur-là. Tu auras compris, Steph, que ça a beaucoup, beaucoup d'impact dans la circulation. Ça refoule au moins, pour l'instant, jusqu'à Seigneurial dans ce secteur-là. Et là, au cours des dernières minutes, on nous a signalé, à la sortie du pont sur la rive nord, donc en direction nord, un accident, un carambolage qui impliquerait 5 véhicules. Et rapidement, sur les cartes, là, je vois des répercussions dans la circulation, voilà. Donc, c'est 2 points chauds qui, habituellement, le vendredi, là, on s'en était tiré jusqu'à maintenant, ça allait très, très bien. Mais là, ce matin, ces deux endroits-là risquent
Des carambolages, là, c'est quand ça s'arrête, quand les limites de vitesse sont autour de 100 km/h, 90-100, et qu'il y a un arrêt complet qui se fait, des fois, il s'agit d'être inattentif pendant quelques secondes. Hier, ça m'est arrivé encore sur l'autoroute 20, à la hauteur de Beaumont-Saint-Michel, là, vous dire exactement, après la sortie Saint-Charles de Bellechasse, il y a un rétrécissement, c'est une voie de circulation, on circule à contresens du même côté, on est en train de refaire l'autre bord au grand complet. Mm-hmm. Et ils ont mis le changement de voie tout de suite après un grand virage. Fait que toi, tu roules sur le cruise tranquillement, pas vite, tu t'en vas, petouf, petaf, puis tu sais, à 118, puis là, t'arrives et ça arrêtait hier en fin de journée, là, il était quoi, 3h15, ça s'immobilisait complètement, mais la distance de freinage était quand même très courte, là. Moi, j'ai eu aucun problème, là, les pneus ont pas crié ou rien. Par contre, ça arrivait vite en battant en arrière. Puis, m'a dit une affaire, quand j'étais en moto, là, je fais rien que ça, regarder en arrière. Parce qu'en moto, s'il y en a un qui break pas, t'es fait. Fait que en auto, tu peux toujours aussi trouver une voie d'évitement. Mais je comprends pas que ce soit... J'ai trouvé que c'était moins bien annoncé. Et il y a déjà eu un carambolage mortel à cet endroit-là. À cause de ça, la circulation était complètement congestionnée. Tu sortais du virage, puis t'arrivais dans le tas. Puis c'est un camionneur qui avait pas breaké et qui avait écrasé du monde. Fait que ça me rappelle ça quand je passe dans ce secteur-là.
L'unité Accès Cannabis en l'action concertée contre l'économie souterraine du SPVQ a procédé cette semaine à l'arrestation d'un homme de 52 ans relativement à des infractions en matière de cannabis illicite et de stupéfiants. Ça a permis de saisir quand même beaucoup de matériel. On parle plus d'un kilo de cocaïne, plus de 3000 comprimés de méthamphétamine, également plus de 15 000 $ en devises canadiennes et plus de 600 gélules de CBD ainsi qu'une arme à feu. L'individu qui a été libéré par sommation.
Peut-être faire un lien avec la nouvelle précédente au sujet de... Ben en fait, tu parlais d'accident avec des camionneurs et tout ça. Le camionneur qui a été impliqué dans l'accident cette semaine à Sainte-Perpétue a pris la parole, questionné par les médias. Bon, d'abord, je peux vous dire que c'est Tania Chartrand, 32 ans, qui a perdu la vie, une dame de Saint-Pamphile.
Son bébé était à bord.
Mais
il n'est pas blessé du tout.
Ben, à peu près pas blessé, du moins, on ne craint pas pour sa vie. C'est la bonne nouvelle, effectivement, dans cette nouvelle-là. C'est arrivé mercredi à l'angle des routes 216 et 204. Puisque le camionneur dit, c'est que d'abord, il vit un cauchemar. Là, évidemment, il ne voulait pas que ça survienne. C'est un transporteur de bois. Il dit, j'ai freiné autant que possible, mais il était trop tard quand je l'ai vu. Je ne pouvais rien faire de plus. Et il connaît cet endroit-là, passe régulièrement par là. Et ce qu'il dit, c'est que c'est un coin pas évident. Quand on veut embarquer sur la 204, il y a une maison et une rangée d'arbres qui obstruent beaucoup la vue à gauche. Pour bien voir, il faut pratiquement s'avancer de l'autre côté du panneau d'arrêt. C'est ce qui est arrivé hier. La femme s'était
avancée. Donc, la femme s'était avancée un peu trop, puis lui, il n'a pas pu l'éviter.
Exact.
Elle a voulu embarquer trop. Ah oui, OK. Je ne savais pas exactement qu'est-ce qui s'était passé.
Il lui dit qu'il a voulu porter secours, bien sûr, à la dame, mais écoute, ça a pris les pinces de désincarcération pour la sortir de là. Puis pour le reste, il se confond en... Il trouve que ça aurait pas arrivé à n'importe qui, mais je veux leur offrir tout mon soutien, leur dire que j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais pour l'éviter. C'est vraiment triste qu'ils doivent traverser. J'aimerais les aider comme je peux.
Parce qu'il a percuté la voiture, puis par la suite, l'a projeté plus loin, puis le camion s'est renversé sur la voiture, comme si c'était passé par après. OK, vous dire au sport, les Remparts jouent ce soir à Kamloops. C'est présenté à RDS et à la radio ici dans la région de Québec sur Chiz. Vous avez également hier les Stars de Dallas qui ont évité l'élimination. Les Celtics dans la NBA ont également évité l'élimination hier. Je compléterai en vous disant que c'est le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Alors, si vous êtes multimillionnaire, ça peut être une petite virée le fun en fin de semaine du côté de Monaco. On se reparlera lundi.
Les Capitals au stade aussi.
Les Capitals, c'est vrai. Les Capitals, ils jouent au stade. Ils ont gagné hier 8-1. Et d'ailleurs, je vais offrir à 10h ce matin 4 billets pour assister à un match des Capitals de votre choix. Vous devez texter le nom de la mascotte des Capitals, car c'est le seul qui sera pas éclairé qui ne peut pas être éclairé d'ici la fin de l'année.
Oh.
Lui, il y a juste la mascotte qui est intouchable dans cette équipe-là. À la météo, ben, c'est un superbe week-end. On a encore eu un avis de gel hier sur certaines régions. Là, c'est derrière nous, là. Je vous avais dit ça en début de semaine que c'était la dernière fois. Il y en a quand même eu un autre hier. Mais là, donc, aujourd'hui, 21 degrés au maximum. Demain, on parle de 27. Dimanche, de 28-29. Donc, vous voyez que les températures seront fort agréables. Peu de nuages, pas de précipitations, que du beau temps. Et ça, si on regarde et on s'étire, là, c'est pour les 4-5 prochains jours, la belle température.
Ben, c'est ça.
Notre invitée à cette heure-ci, elle est directrice du service des activités sportives de l'Université Laval. Ils ont fait des travaux, mais au cours des dernières années, ça a bougé énormément à l'Université Laval avec des travaux de toutes sortes. Et là, quelque chose de qui paraît pas vraiment, parce que nous, on est assis dans les estrades, puis on crie après les adversaires du Rouge et Or, mais le changement de la surface est quand même un changement majeur. Donc, pour en parler avec nous, Madame Julie Dionne. Bonjour, Madame Dionne.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais ça me fait plaisir de découvrir... tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire la chambre de mes enfants en tapis-gazon, mais je savais pas où acheter ça, puis comment ça marche. Non, mais c'est vrai. Alex, il m'avait demandé ça dans sa chambre, puis j'en avais mis un grand segment quand même. Là, vous aviez un terrain à refaire. Ça avait une durée. Comment ça avait été fait il y a combien de temps avant là?
Ça avait été fait quand même il y a 12 ans. Puis la durée de vie là, potentielle, c'est 10 ans. Donc, vraiment, on était dû. Ça fait à peu près 3 ans qu'on se posait la question de dire, ben, c'est quand le bon moment? Évidemment, la pandémie est arrivée, tout est arrivé, mais il fallait vraiment là, procéder à des travaux rapidement.
OK. Est-ce que c'était déjà budgété dans les budgets de sport de l'Université Laval?
Non, c'est pas budgété dans les budgets de sport. C'est autofinancé par le service des sports. Donc, nous, on doit l'autofinancer sur plusieurs années. Mais quand il faut que ça se fasse, Je pense que les joueurs vont être contents, que ce soit de rugby, que ce soit de football, parce qu'il y avait des bosses sur le terrain. Honnêtement, là, c'était,
okay.
Le drainage en dessous devenait problématique.
OK. Donc, là, on parle pas juste de changer le tapis gazon. Là. On parle c'est d'une structure. Je sais que les Capitales l'ont fait justement quand ils ont ajouté le terrain synthétique. Ils ont ajouté un système de drainage qui fait qu'après une pluie importante, on peut jouer rapidement. Dans le cas du football, ça joue tout le temps, mais il y avait aussi donc toute cette structure-là de drainage qu'il fallait refaire?
Ben effectivement, en fait, si c'était le tapis, c'est pas compliqué, là. C'est pas long, on change le tapis et tout ça, mais des travaux comme on fait là, c'est vraiment... En fait, on a fait du carottage l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait des drains qui étaient affaissés. Le gel des gels créait des bas sur le terrain, donc il a fallu vraiment tout enlever la structure. On est actuellement dans le drainage et l'infrastructure pour qu'à la mi-juillet, on soit prêt pour installer le tapis, pour que le 25 août, tout soit prêt pour la saison de football. Donc, le camp d'entraînement du Rouge et Or risque de se dérouler sur des terrains connexes, mais on fait tout en notre possible pour que ça puisse être à temps. Évidemment, on a un petit buffer. Là, on s'est donné un buffer. On a travaillé notre calendrier de football pour s'assurer que notre saison à domicile commence plus tard qu'à l'habitude. Donc, notre premier match à domicile, c'est un match en soirée qui va être le 9 septembre. Pour permettre là, que tout soit prêt.
Qu'est-ce que ça représente comme excavation, donc pour faire du drainage? Est-ce qu'on a creusé de plusieurs pieds?
Il y a quand même plusieurs étages. J'ai pas les chiffres exacts, mais on a trouvé toutes sortes de choses, en fait. Mmh. On a trouvé aussi du drainage, du terrain naturel. On refait aussi la piste d'athlétisme, donc c'est important de le mentionner.
OK, on va
parce
plus large.
On fait également la piste d'athlétisme. Pour nous, c'est 3 appels d'offres différents. Appel d'offres génie civil, le drainage, appel d'offres pour le tapis. Puis l'année suivante, l'appel d'offres pour le tapis de piste d'athlétisme. Donc,
okay.
C'est vraiment quelque chose qui se fait en plusieurs étapes.
Est-ce que à travers les 12 années, la technologie... Moi, je me souviens quand le tapis actuel avait été installé, il y avait des grenailles de caoutchouc noir.
Ouais.
Puis les gars se relevaient, il y en avait partout d'en face. Ouais. Puis ça, est-ce que ça a évolué, ça, au niveau des produits?
Ça a évolué. Puis faut savoir qu'il y a 12 ans, on était quand même dans les premiers terrains synthétiques. Là, ça a explosé, il s'en fait partout. On était dans les premiers terrain synthétique, mais ce qui est intéressant pour l'appel d'offres qu'on a eu pour le tapis, les entrepreneurs devaient nous proposer un échantillon. Un échantillon de à quoi elle allait ressembler selon leur technologie maintenant, qu'on fait évaluer par évidemment une firme externe qui permet de dire, OK, parfait, non seulement vous gagnez l'appel d'offres, mais le tapis est conforme à ce qu'on veut avoir maintenant. Il y a beaucoup de reflets hein, pour ceux qui regardent les matchs à la télévision ou même ceux qui sont dans les estrades. On voyait vraiment beaucoup de reflets. Ça va être changé. Là. Ça a vraiment beaucoup évolué.
OK. Donc, c'est ça. Il était comme luisant. Puis des fois, selon l'angle de la caméra...
On a l'impression que c'était enneigé en tout temps. Là.
Exact.
Ça risque de pas être ça maintenant.
OK. Et au niveau de pour les joueurs, ça, est-ce qu'on consulte? Les joueurs, tu sais, il y a des joueurs qui disaient, ben, des fois, on va se blesser parce qu'il y a un tapis gazon. Si ton pied respire, tu sais, la tourbe arrache pas. Là. Fait que c'est ton genou qui subit le choc.
Beaucoup en consultation, mais on le fait évidemment avec les entraîneurs, évidemment avec Glenn, pour vraiment voir un peu c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui est le mieux. Mais je dirais que maintenant, là, ceux qui font des tapis, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. C'est beaucoup sur la sous-couche, là, au niveau de le concassé, s'assurer que ça ne soit pas trop dur. Quand on a joué la Coupe Vanier à Western l'année dernière, ben, le tapis était très glissant. Mais ça, des fois, c'est du gel, des gels et tout ça. Puis pourtant, leur tapis était neuf. Donc, nous, on veut vraiment s'assurer là, que ce soit... Ben professionnel.
C'est vrai
qu'on l'a pour longtemps aussi, parce que le drainage, quand on le fait, on veut pas l'avoir pour seulement 10 ans, on veut l'avoir pour 20 ans.
Puis en plus, vous l'utilisez tard, là, c'est ça, la Coupe Vanier, qui est en novembre souvent, là, donc
oui.
Il peut y avoir de la neige et des fois assez extrêmes.
On déneige, puis on use quand même le tapis en déneigeant régulièrement pour
la
Coupe Vanier,
Floride,
les événements comme ça. Québec-Montréal a déjà une différence, vous le savez, ben à Québec, quand on a déneigé, puis des fois ça devient glacé, ben c'est pas évident pour... pour la structure.
Comment ça peut coûter, des travaux comme ceux-là?
C'est de l'information que vous pouvez trouver, mais c'est quelques millions, je pourrais dire,
okay.
quand même. Donc, pour moi, c'est important de mentionner que les prix d'avant pandémie puis après pandémie, on le voit dans la construction là, c'est on est pas dans le même niveau, puis ça c'est évidemment dommage pour nous parce que c'est un prêt plus grand à aller rembourser. Mais je sais que Western, quand ils l'ont fait, leur coût de toutes leurs installations versus un autre, on est quasiment du simple au double. Là.
OK, donc, à ce point-là.
C'est pas rien. Là.
Donc, vous parlez, les directeurs et directrices, par exemple, choses de sport d'une université à l'autre, vous parlez régulièrement?
Oui, quand même, assez régulièrement. On n'est pas en compétition, hein, nous. Les coachs sont en compétition, sont en rivalité. Nous, on a souvent des réunions ensemble, puis on se parle un peu, surtout nos infrastructures, parce que c'est le nerf de la guerre au niveau sportif. C'est des choses qu'on doit financer. Il n'y a pas énormément de subventions au niveau de l'infrastructure, donc on doit trouver des moyens de renouveler. Puis pour que ça soit sécuritaire aussi, puis ce qu'on souhaite, c'est que notre terrain n'était plus, non seulement il était vieux, mais il était plus sécuritaire. Puis là, ben là, c'est la santé.
C'est la santé des joueurs qui passent par là.
Ouais.
J'ai l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé dans le monde du sport à l'Université Laval, que ça l'a fait beaucoup augmenter la notoriété de l'université avec du succès. Bon, en rugby, les filles ont été incroyables. Là, au football, au basketball aussi, au soccer, au golf, il y a dans tous les départements, il y a des jeunes athlètes qui se sont démarqués. Et je comprends que l'université, c'est une université académique, mais le volet sport a donné une visibilité beaucoup plus grande. Êtes-vous d'accord avec ça?
Je peux pas être... Je suis extrêmement d'accord avec ça. Cette notoriété-là, on l'a bâtie au fil des ans, mais le programme de football en est un bon exemple. Je pense qu'il a mis quand même l'Université Laval sur la map avec leur conquête de Coupe Vanier, mais les autres sports se sont développés aussi. Puis l'automne, c'est impressionnant. Là, l'automne qu'on a eu, on en a parlé beaucoup là, dans les médias et tout ça, là, mais c'est 3 championnats canadiens en dedans de 20 jours. Cross-country féminin, rugby féminin, Coupe Vanier, sans compter médaille d'argent canadien soccer féminin, médaille d'argent cross-country masculin. Ça s'est jamais passé dans l'histoire. Donc, cette notoriété-là qu'on a avec le sport, ben se reflète évidemment dans nos admissions, dans la notoriété de l'université et tout ça. Donc, ça va ensemble. On voit aux États-Unis beaucoup comment le sport amène les gens aussi. Puis à l'université, ben quand on réussit nous-mêmes à diplômer des gens, c'est nos statistiques, c'est intéressant pour
ça. Est-ce qu'il y a des augmentations ou des demandes d'admission qui proviennent d'ailleurs au Canada?
Oui.
De gens qui veulent absolument soit... mais est-ce que c'est uniquement pour les études ou c'est le sport en premier, puis ensuite on va y aller pour un programme d'études?
Le sport, bien évidemment, nous on avait fait des sondages, puis c'était intéressant de savoir là, que parmi les gens, s'il n'y avait pas le sport au Géard, pour eux qui le pratiquent, ils ne seraient pas venus à l'Université Laval. T'sais, sur 500 athlètes, on avait fait un sondage, 250 athlètes ne seraient pas venus à l'Université Laval si ce n'était pas pour le Rouge et Or. Mais maintenant, quand ils viennent pour le Rouge et Or, ils ne viennent pas tout seuls. Ils viennent avec un ami, ils viennent avec un coloc et tout ça. Donc, ça l'amène des gens. Puis, on fait ce recrutement-là. On fait du recrutement, donc que ce soit au Québec, en Ontario, dans l'Ouest, en France, ailleurs. Donc, les gens en entendent parler. Puis, évidemment, ils veulent venir l'essayer. Puis, ils veulent rester leurs 5 ans.
C'est pas tous les sports qui sont représentés. Le rugby masculin, il y en a-t-il ça? Il n'y en a pas, hein?
Il y en a un, mais il n'est pas Rouge-et-Or. Donc, c'est un club de l'Université Laval qui n'est pas identifié Rouge-et-Or.
OK. Pourquoi? Ouais. Tu sais, le rugby féminin, on en entend parler. Puis, c'est, tu sais, au Canada, là, vraiment, les filles étaient beaucoup trop fortes, là. Puis, méchant paquet, ils sont sur l'équipe canadienne aussi.
Ouais.
C'est ce que j'ai vu à travers les années. Puis, chez les hommes, ça marche moins un petit peu.
Bien, le rugby féminin, à Québec, extrêmement fort dans tous les niveaux, assurément. Nous, ce qu'on tente avec les programmes Rouge-et-Or, qui sont quand même des corporations, là, c'est 14 corporations, c'est d'avoir l'équité homme-femme aussi.
Okay.
Donc, tu sais, on le voit, là, basketball masculin, basketball féminin, volleyball féminin, volleyball masculin, soccer. Bon, ben, football, ben, rugby pour nous, c'est
notre penchant féminin. OK, je comprends.
Ça, l'équité homme-femme, tous les directeurs des sports au pays, c'est un peu notre champ de bataille aussi. On parle d'hockey des fois, bon, pourquoi pas d'hockey à l'Université Laval? Mm-hmm. Ben, si on veut faire du hockey, on va le faire chez les femmes, on veut le faire chez les hommes aussi. Donc, on n'en est pas là. C'est un projet qui est sur la table. On ne développe pas ça actuellement parce qu'il y a plusieurs autres décisions à prendre.
C'est dommage parce que je vous parle en tant que parent. Là.
Ouais.
Puis, tu sais, je sais qu'il y a le programme. Puis, il y a un joueur des Remparts, là, P.O. Roy, qui s'en va jouer avec Trois-Rivières. Puis, qui a bien hâte. Là, il est dans ses derniers moments, évidemment, avec les Remparts à la Coupe Memorial. Mais, tu sais, il y a beaucoup de jeunes. Moi, je pense à mes gars qui ont joué le hockey scolaire tout le secondaire. Collégial, je m'étais battu avec Alex au Cégep Lévis-Lauzon pour qu'il y ait finalement une équipe de hockey manquer. La pandémie est arrivée, puis la saison, j'aurais jamais pris son envol, mais les gars, ils ont pratiqué, puis l'équipe avait été formée. Puis là, ils arrivent au niveau universitaire, au Québec, puis c'est pas qu'ils vont percer nécessairement. T'sais, la majorité des joueurs qui jouent pour le QTR vont pas jouer dans la Ligue nationale par la suite. Puis UNB, c'est la même affaire. Mais par contre, ils vont continuer leurs études tout en pratiquant un sport à un haut niveau. C'est pour ça qu'il y a un manque incroyable. Vous m'avez parlé un petit peu en dehors des ondes d'un manque de financement. J'ai de la misère à le comprendre. Je suis convaincu que, comme le Rouge et Or est capable de s'autofinancer au plan football, j'ai l'impression qu'au hockey, puis on le voit à Trois-Rivières, c'est tellement dans nos mœurs que ça pourrait fonctionner, l'autofinancement du programme de hockey.
Je pense que ça pourrait fonctionner aussi. Il y aurait quand même une grosse campagne pour former. Il faudrait former un organisme sans but lucratif, ce qui est exactement avec le football puis tous nos sports. Donc, on a vraiment des corporations qui doivent se former. Donc, des gens d'affaires, d'influents qui ont le goût de se mobiliser pour dire, ben nous, ça nous prend un club de hockey à Québec au niveau universitaire. Donc, la porte n'est pas fermée. Honnêtement, la porte n'est pas fermée. Ça reste dans la discussion. Mais pour réussir à avoir une ligue universitaire québécoise de division 1, parce qu'ils sont en train de partir une ligue de division 2, la Ligue de Division 1, à laquelle on aspire, ben ça prend aussi, ça prend du financement, mais ça prend un nombre d'équipes suffisant pour avoir une ligue intéressante. On parle d'Ontario. Ontario sont une vingtaine d'équipes. On parle de...
Mais pourquoi pas jouer avec eux tant qu'à ça? T'sais, on veut que le football, on aimerait que le football devienne une ligue canadienne. Ben OK, visons pas la Ligue québécoise, visons une ligue au départ plus large.
Les équipes du Québec jouent en Ontario actuellement.
OK.
Mais je pense pas que c'est le souhait de l'Ontario de maintenir à long terme les équipes du Québec. Sont assez gros, ils ont assez d'universités pour pouvoir maintenir leur ligue. Donc, jouer avec le réseau du sport étudiant, former votre ligue. Donc là, on devient dans un endroit qu'on va dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rapatrie nos équipes du Québec puis on se crée une ligue? Pour avoir une ligue honnêtement intéressante, ça va prendre 6 équipes en division 1 parce que c'est beaucoup de matchs. Là. On n'est pas à 8 matchs ou 10 matchs ou comme le football.
C'est ça, on est plus près du 60.
On est fragile avec 5 équipes au football aussi. Donc, tu sais, il faut vraiment trouver le filon. Donc, oui, on se parle en direction des sports. On regarde un peu qu'est-ce qui est possible, c'est quoi le financement pour une équipe de hockey. Puis après ça, ben si on décide de bâtir ou partir un projet, ben la mobilisation de la population. Puis je pense qu'on avait déjà un peu soulevé. Je pense qu'au niveau hockey, on l'aurait quand même bien.
Dans l'ensemble des sports présentés à l'Université Laval, puis François Legault en parlait hier, parce que là, ils vont les jouer dans l'immigration permanente, puis l'immigration temporaire. Mais ça, c'est justement des étudiants de différents pays qui viennent à l'Université Laval. Je sais pas combien il y en a. Là. Ils sont quand même. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers quand même à Laval.
Il y en a quand même énormément. Puis nous, on en a aussi dans nos équipes beaucoup. Certaines équipes, nous, on a un ratio qu'on doit respecter, donc 3 étudiants étrangers. Par exemple, au basketball, tu ne peux pas avoir plus que 3 étudiants étrangers par équipe.
OK, c'est un règlement de ligue, ça?
Un règlement canadien, oui.
Un règlement canadien, OK.
Ouais, au volleyball, c'est 2 étudiants étrangers, ça tend à changer. Au soccer, on n'a pas de règles à ce niveau-là. Au football, on n'a pas de règles. Donc, c'est variable selon les sports, mais on a effectivement une belle lignée. Là. En natation, entre autres, beaucoup de nageurs de la France.
Okay.
Parce qu'eux autres, le modèle est intéressant. Combiner des études et le sport, on trouve moins ça en Europe. C'est soit que tu fais du sport à temps plein, tu étudieras après, mais de pouvoir faire les deux, c'est vraiment un avantage pour eux. Donc, c'est pour ça que les gens veulent venir jouer au Canada.
Qui paye pour ça, pour ces gens-là?
Eux-mêmes.
Mais ça peut être okay, parce que, tu sais, moi, j'aurais aimé, mettons, mes fils aillent dans une université américaine.
C'est un mélange, eux-mêmes et l'octroi de bourses.
De bourses qui proviennent du gouvernement ou de l'école?
Des corporations qui ramassent des sous pour trouver des bourses, de nous, de nos partenaires financiers, nos entreprises, des donateurs qui veulent investir vraiment pour les étudiants athlètes parce que eux travaillent à temps plein. Tu sais, ils peuvent pas travailler à temps plein. Donc, ils étudient, ils font leur sport. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour avoir un travail. Donc, de pouvoir leur offrir des bourses, ça devient intéressant. Mais il y a des règles aussi. On peut pas donner plus de bourses que les frais de scolarité.
Okay.
On peut pas dire à un athlète, écoute, toi, tu vas avoir 15 000 $ par année. Ça se peut pas. Ça va être exemple, si ta session coûte 3 000, ben le maximum de bourses que tu pourras avoir, ben ça va être 3 000 $
Je comprends, mais je croyais pas qu'ils avaient accès au programme universitaire scolaire avec les mêmes frais que mes enfants, mettons, ont à défrayer.
Ils ont des frais différents. L'Université Laval, on est en mesure d'avoir un programme qui permet d'aider ces gens-là au niveau de leurs frais pour qu'ils puissent payer un petit peu moins. Donc, okay. Ça, c'est un avantage que le Rougeard leur permet d'avoir.
Est-ce que le domaine, tout votre département à vous, là, les sports de l'Université Laval, est-ce que c'est en santé? Est-ce que ça va bien? Êtes-vous contente de ce que vous voyez? Là?
Ah oui, ça va vraiment bien. On a vraiment, on parle d'infrastructure, là. Quand les gens visitent nos installations, ben, vous savez, là, c'est des plus belles installations qu'on a au pays. On continue de recevoir des championnats.
Parce que la piscine est assez neuve.
Cette année encore. La piscine est neuve aussi. 2013, donc c'est pas très vieux. On reçoit le championnat rugby féminin cette année, championnat canadien. On reçoit le championnat de basket masculin. Ça, c'est une première au Québec. Ça n'a jamais été reçu. C'était toujours à Halifax. Et c'est la première fois qu'on nous l'octroie. Donc, ça, c'est positif.
Puis ça va être à quelle date? Ça va être quand? Ça va être fun?
La semaine de relâche du mois de mars. Donc, ah ouais, OK. Meilleure équipe. Ça va être extraordinaire. Moi, je suis allée à Halifax voir ça. C'était plein. Là. C'était exactement où les Remparts ont joué là, au stade Scotiabank.
OK, ils ont joué ça dans l'aréna. Okay.
10 000 personnes. C'était plein.
C'est aussi festif qu'on peut voir dans la NBA ou encore dans la NCAA?
C'est assez festif, je vous dirais. Halifax, c'est une ville assez festive aussi, donc la situation se fait bien. Donc, nous, on veut reproduire un événement quand même très, très fort.
Est-ce la Dalziane qui a joué au basket en passant?
Comment?
Avec le Rougeard.
Ah oui, vous avez joué au basket avec...
Oui, oui, j'ai joué mes 5 ans. 5 ans Rougeard, il y a plusieurs années maintenant, donc... J'ai quand même un sentiment d'appartenance assez fort pour le Rougeard, donc...
OK. Est-ce que vous jouez encore? Ça existe-tu une ligue de basket de garage?
Ça existe beaucoup. Okay. Je suis encore trop compétitive pour ça.
Ah oui, vous allez arriver à la maison choqué noir?
J'aime mieux changer de sport. Donc, je fais d'autres activités à la place.
Sérieux?
Je me trouve moins bonne, donc j'aime mieux essayer de faire d'autres choses.
Est-ce que vous trouvez que les joueurs actuels sont meilleurs que le niveau que vous aviez dans le temps?
Oui, assurément. Mais ça tombe que l'année... Nos années, nous, on avait gagné médaille d'argent au championnat canadien. Donc, on était dans des années très, très fortes. Mais le sport a évolué. Je pense qu'on le voit dans tous les sports. C'est difficile de comparer des athlètes d'il y a 10 ans. On parle souvent de LeBron James contre Michael Jordan. C'était juste différent. T'sais, même chose à certains joueurs de hockey. T'sais, on le voit, les Mario Lemieux, Sidney Crosby. C'est difficile de faire cette comparaison-là.
Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez dans le programme de basket Rouge et Or que vous auriez aimé avoir à l'époque où vous jouiez?
Vraiment beaucoup. Un gymnase comme ils ont actuellement. Ah, je pense qu'ils ne réalisent pas l'amphithéâtre gymnase dans lequel ils jouent, 3200 personnes, la foule qu'ils ont. Nous, on avait peut-être 300-400, c'était la folie. Ils réussissent à avoir des foules de 1500 à 1600. Puis tout l'encadrement maintenant, académique, nutrition, médical.
Les vêtements, ils sont habillés de la tête aux pieds.
Les niveaux, ça a juste évolué, puis c'est pour le mieux. Moi, ce que je souhaite, c'est juste qu'ils réalisent, parce qu'ils vivent vraiment les meilleures années. Tous les athlètes, c'est ce que je leur dis parce que je l'ai vécu. J'ai été entraîneur aussi longtemps. Ils vivent vraiment les meilleures années de leur vie.
Mais ça vous venait d'où, cette piqûre-là pour le basketball? Parce que c'était pas très populaire, j'imagine, au moment où vous avez commencé à jouer à ça?
J'étais joueuse de soccer, joueuse d'handball. Je venais de la Rive-Sud, handball très fort. J'ai été à l'école sur la Rive-Nord, puis il y avait trois choix.
OK.
Dont le basketball, puis... Anecdote rapide, la première fois que j'ai pris un ballon pour jouer au basketball, ben je suis partie avec dans les mains, j'ai couru au terrain. Donc je savais pas trop, j'étais plus au football, j'imagine, je savais pas trop quoi faire avec tout ça, mais puis j'ai commencé quand même en secondaire 1, qui est tard maintenant parce que les jeunes commencent très tôt. J'imagine que ça a bien été le reste de la carrière.
Ça a bien évolué. Puis c'était, tu sais, moi je trouve que la popularité du basketball, la victoire des Raptors a donné un gros kick à ça. Moi je le vois chez nous là. Puis c'est pas pour rien que j'ai construit un demi terrain pour mes fils. Les gars ils capotent. Puis ils sont, c'est la chose plus que la piscine, plus que toutes les installations qu'on peut avoir. C'est le terrain de basket qui sert le plus.
Là. Même chose chez nous.
Ah ouais, hein, c'est vraiment.
Les deux garçons aussi, c'est la même chose. On n'a pas de terrain, la seule affaire qu'on a, c'est un endroit pour jouer au basket. On en consomme, nous, tous les jours, tous les matchs. On est vraiment des
puis j'essaie de convaincre les gens. C'est drôle, j'ai moins d'intérêt d'aller voir du hockey maintenant. Aller voir un match de basketball professionnel ou encore de la NCAA, il faut que ce soit des équipes compétitives, c'est complètement autre chose. Là, vous dites, mais j'aime pas tant ça, le sport. C'est de voir tout ce qui englobe ça. Tu sais, je vous disais, au Blue Jays, par exemple, le baseball, qui est pas quelque chose de très excitant, mais ils ont réussi à créer, en tout cas dans le champ extérieur, des bars, de la musique live, des jeux pour les enfants. Ils ont créé quelque chose qui vient enrober le sport. Belle basket avec un DJ live. Vous dites, à Miami, là, c'est l'asile. Là.
Il crée vraiment un événement.
C'est ça.
Puis dans la génération d'aujourd'hui, qui vont vite, puis que le niveau d'attention est moins important, mais le basket est un sport rapide. Donc ça, c'est intéressant. Puis les événements, c'est ce qu'on veut créer le plus possible maintenant. Tu sais, au football, ça reste que c'est le tailgate, la demi, on crée maintenant des matchs thématiques. On veut amener des gens qui consomment pas nécessairement le football, mais qui disent, ben, qu'est-ce qui se passe à Québec? À Québec, c'est au football que j'ai goût d'aller, ou c'est au rugby,
ça va être le soccer, fun, ouais.
Ça va être le fun, puis voir mes amis. Puis on veut créer encore plus des sections étudiantes, puis on veut sentir que les gens se rapproprient un peu leur sport.
Exact. Et on va le faire avec plaisir. Là, c'est plutôt relax durant l'été. Hein? Il y a pas. Vos équipes sportives sont toutes arrêtées ou presque?
Sont en entraînement physique.
Ah ouais, ouais, c'est ça.
Ils s'entraînent fort physiquement pour être prêts pour.
Puis mentalement aussi, il faut s'entraîner mentalement.
Tout ça.
Du pont le matin, on s'entraîne mentalement l'été. C'est pour ça qu'on est bon quand on vient. Merci beaucoup, Madame Diane. C'est un plaisir de vous rencontrer. Puis bon succès avec les travaux d'une importance quand même assez importante là pour la surface du terrain du stade TELUS. Madame Julie Dionne, directrice du service des activités sportives de l'Université Laval, était notre invitée. Merci.
Merci.
On revient dans un instant.